quand on commence.
Oh, on est prêt.
Aujourd'hui, on va s'inspirer du livre de Patrick Lencioni, c'est ça? Je sais pas si c'est un italien, mais anyway, j'ai pas d'accent italien, fuck that. Les 5 dysfonctions d'une équipe, on va parler de ça, donc de leadership, du workplace, de la dynamique à l'interne, des exemples, chacun de notre côté. Jake, je vais te laisser l'idée, parce que c'est toi qui as lu le livre. Moi, tu me l'as présenté hier soir, donc j'ai pas eu le temps, évidemment.
5 dysfonctions d'une équipe. Sérieusement, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je suis beaucoup là-dedans. Je sais que toi aussi, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de parler de ça. Je pense que, tu sais, la phrase « seul, on va vite, mais ensemble, on va loin », quelque chose de même. Mm-hmm. Tu sais, je pense que la vraie phrase, c'est plus « ensemble, on va loin et vite, puis seul, ben, tu vas vite, est-ce que tu peux aller, puis that's it. » Fait que je pense que c'est important, à un certain moment donné, de se caler à travers les autres personnes aussi. Puis ce livre-là, c'est vraiment intéressant parce qu'il parle de... c'est quoi les problématiques, les 5 grosses problématiques ou 5 gros défis que tu vas vivre à monter une équipe? Puis je pense que si tu as déjà été coach d'une équipe de sport ou même capitaine d'une équipe de sport ou quelque chose, il y a toujours ça qui va arriver dans n'importe quelle équipe. Puis je pense que souvent, en tout cas, moi personnellement, j'ai jamais eu aucune formation là-dessus, puis je sais pas en fait, je faisais ce que je pensais qui était bon, mais il est arrivé plein de défis à travers le temps, et c'est ça, fait que ce livre-là, ça amène beaucoup de clarté, je pense, sur des choses qui ont déjà arrivé, puis des choses qui peuvent arriver, et ça peut faire un point sur, ok, présentement, on en est où, est-ce que c'est aussi bien que moi je pense, est-ce que il y a des problématiques où c'est mieux ou pire, fait que ça, puis la base de la pyramide, en fait, c'est vraiment imagé comme pyramide, puis à base, c'est l'absence de confiance, et c'est autant au niveau de l'absence de confiance, au niveau du patron, si on veut, du leader du groupe par rapport aux autres personnes, qu'entre les gens aussi. Et ça, ce que ça amène, c'est que s'il n'y a pas de confiance, que les gens ne sont pas capables de se parler de d'autres choses que juste le travail, puis de se compter des choses, puis c'est que on enlève tout ce qui est humain. Et tu sais comme moi que la communauté, c'est dans l'ADN humain. Là. On est des hommes des cavernes qui se promènent en tribu. C'est super important, les rites et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Et si tu veux, selon moi, si tu veux rester longtemps dans une entreprise, il faut que tu sens que tu fais une différence. Il faut que tu sens que tu n'es pas un numéro. Il faut que tu sens que tu fais partie de quelque chose qui est plus grand que toi-même. Et mais tu dois faire confiance aux gens autour de toi. Tu dois faire confiance aux gens au point où est-ce que on a déjà fait un exercice avec Phil Mascott qui c'est que tu te mets dans le centre, okay, du groupe de personnes, tu fermes tes yeux puis tu te laisses tomber. Puis là, les autres, il faut qu'ils te pognent, dans le fond, je sais pas comment dire le terme.
Qui t'attrape,
merci. et c'est ça, puis qui te re-swing, puis tout ça, puis c'est un peu spirituel ou peu importe ce qu'on veut, mais c'est de bâtir la confiance à travers les gens, tu sais. Fait que je sais pas si qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ben oui, absolument. Puis tu sais, dans le fond, la meilleure façon en tant que leader de faire sentir aux autres qu'ils peuvent avoir confiance en toi, en fait, la seule façon, selon moi, de le faire, c'est d'exposer toi-même ta
vulnérabilité.
Vulnérabilité. Donc, d'exposer ta vulnérabilité avant qu'eux le fassent. Parce que, tu sais, dans ce scénario-là, action speaks louder than words. Clairement, 100%. Je veux dire. Si moi j'expose une vulnérabilité, ça va être bien plus facile pour toi de t'ouvrir que si je te dis, écoute, ma porte est toujours ouverte, tu peux venir me parler de n'importe quoi. Il n'y a personne qui va venir me parler de n'importe quoi parce qu'ils vont avoir peur de montrer des faiblesses. Puis de là un peu, la mission derrière mon podcast, dans le sens que tu sais, je veux partager mes expériences, que les auditeurs apprennent à travers mes expériences, puis on n'a pas besoin de se faire frapper par une auto pour savoir que ça fait mal. Mais en tant que leader dans cette équipe-là, je suis conscient qu'il y en a plusieurs dans mon équipe qui écoutent mon podcast. Fait que de moi raconter mes histoires, eux, ils ont tellement de contexte sur moi que quand il leur arrive quelque chose dans leur vie personnelle, ben, ils n'ont pas peur de s'ouvrir et de m'en parler. Fait que, tu sais, de là, je trouve qu'à l'intérieur de Believe Subs, on a une belle sentiment de confiance. Puis ça part de là. Ça part du fait que quand tu penses à ça, même moi au top, j'ai pas peur de parler de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, de crise de panique ou de mon histoire de cancer de la peau ou de toutes ces choses-là. Donc, je pense que ça part de là, de ton côté.
Ouais, même chose. Puis je pense que si il y a jamais personne qui vient jamais te voir pour rien, puis tu te dis, ah, ben c'est parce que tout va bien, je pense que c'est peut-être de se demander, tu sais, est-ce que les gens sont vraiment à l'aise de venir me parler des problématiques qu'ils ont ou des challenges ou qui ont vraiment confiance à 100%. Puis la confiance, ça vient aussi, comme tu disais, de leadership. Puis on pourrait rentrer dans les 5 niveaux de leadership. Je sais pas si on a déjà parlé, là, mais c'est un livre de John Maxwell aussi qui est. Qu'il y a différents niveaux de leadership. Le premier, il est positionnel. Tu sais, t'es juste un. T'es un gérant parce que t'es un gérant. Ou t'es un leader parce que t'as une position de leader. Tu sais. Puis ça bouge pas beaucoup les gens. Ça l'amène pas à avancer. Puis le troisième niveau, si je me souviens bien, c'est walk the talk. C'est juste de faire ce que tu dis. Tu sais. Puis ça, je pense que ça bâtit beaucoup, beaucoup de confiance de. Toi, si tu dis justement là, d'être de partager les choses, puis c'est important la communication puis tout ça, mais toi, t'es jamais en train de parler des affaires qui vont pas bien ou t'as de la misère, whatever, ben ça, c'est ton rôle à toi d'amener ces discussions-là. Puis dans le livre, il donne un exemple que ben c'est bon parce que c'est une histoire, puis dans le fond, c'est comme il y a une nouvelle CEO qui prend la tête de l'entreprise qui est en déclin. Puis il y a comme 300 employés, puis il y a l'équipe d'exécutifs, tu sais, les hauts placés, si on veut, entre guillemets. Puis là, il faut qu'elle change la culture de l'entreprise. Puis dans le fond, elle fait un exercice où est-ce que tout le monde a à partager une chose qu'ils n'ont jamais partagée avec personne. Tu sais, fait que de raconter une histoire quand ils étaient jeunes ou whatever, puis c'est tout des trucs pour bâtir des liens. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que, je vais donner un exemple, Vincent, nos coach, il veut faire ses cours de moto, fait que là, il nous parle de ça dans les meetings, tu sais, il en est rendu où par rapport à ses objectifs personnels, puis tout ça. Puis ça, c'est le fun parce que, je pense que c'est de même, tu bâtis la confiance aussi, de parler d'autres choses que juste, hey, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça, puis la job, puis si, fait que je pense que c'est de leur donner des opportunités de bâtir de la confiance entre eux, et en toi, comme tu disais, être vulnérable, puis de. Je pense aussi, tu sais, dans notre podcast, on disait comment ça va, tu sais, mais juste de demander ça va-tu vraiment bien, est-ce quelque chose qui. Puis souvent, ça amène à des belles conversations que tu peux avoir avec des gens, juste de demander comment tu vas réellement.
Mais tu vois, tu m'amènes ailleurs, puis. C'est drôle, en fait, c'est pas drôle, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans mon bureau, honnêtement, j'ai eu peut-être. J'ai eu 5 scénarios où j'ai des employés qui sont venus me confesser quelque chose puis qui ont pleuré. Une fois par rapport au travail, puis le reste, tout des choses personnelles. Tout, ils sont rentrés pour m'en parler quelque chose puis se sont mis à craquer tout de suite. Ça m'est arrivé, ouais, 5 fois au total. Puis je pense que c'est juste parce qu'il y a une culture d'appréciation du monde, tout simplement. Puis tu sais, EQ over IQ, là, 100% au niveau de ma pensée du leadership. Je pense que être un leader... T'sais, avoir un plus gros EQ, là, une intelligence émotionnelle, c'est vraiment plus payant au niveau du leadership. Comme tu dis, walk the talk, c'est hyper bon. Puis, t'sais, les pires leaders pour moi, c'est ceux qui sont comme faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais quand tu vois qu'il y a t'sais, il y en a plein de mes employés que je sais qui écoutent mon podcast, puis il y en a d'autres que je sais qui ne l'écoutent pas. Puis peu importe que tu écoutes mon podcast ou que tu l'écoutes pas, ça ne change rien dans le fait que si, admettons, je vois que tu files pas bien, viens me voir, je veux te poser des questions, puis je m'intéresse sincèrement à pourquoi tu files pas bien. La raison pourquoi je suis capable de développer un sentiment de confiance avec eux, c'est parce qu'ils savent que je m'intéresse réellement à leurs problèmes, puis je vais essayer avec eux de trouver des solutions ou d'ajuster leur horaire peut-être pour qu'ils peuvent régler à la maison ces problèmes-là. Ou, tu sais, je veux dire, quand le monde te font confiance, man, ils vont tout donner pour toi. Mm. Tout donner, absolument.
100%.
Mais il faut que tu t'intéresses au monde.
Mm. 100%.
Tu sais, mais honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Il y a du monde qui... J'en ai eu, moi, des boss, man, que... J'ai déjà eu un boss... Je te niaise pas. Je te jure qu'est-ce que je veux dire. J'étais en train de faire payer un client. Dans ce temps-là, je travaillais à Percé. J'étais en train de faire payer un client. Puis le gars, c'était genre un motard. C'était un... Tu sais, c'était un bonhomme. Il était avec sa femme. Là, puis moi, ce monde-là, j'ai fait le bain. J'ai des bonnes relations avec le monde. Dans la restauration de mes forces, j'étais super caméléon. J'étais capable de parler de la bonne façon à tout le monde. Puis de, j'étais vraiment caméléon. Je me camouflais bien aux tables avec le monde. Puis je prenais leur personnalité, leur mood à eux. Puis le gars, je l'ai fait payer. Je l'appelle. Merci, chef. Passe une belle journée. Puis tu sais, chef, je te jure que mon boss devant le client m'a giflé derrière la tête.
Oh,
il m'a donné une tape derrière la tête tellement que ma tête a fait tout. Tu sais, comme elle a vraiment penché par la main. J'ai reculé de même. Puis j'ai resté de glace parce que pour moi, qu'est-ce qui était le plus important dans ce restaurant-là, c'était que le client parte satisfait. Mais lui, il a vécu une expérience qu'il doit encore raconter là, 4 fois par année. Là. De voir un jeune en Gaspésie se faire gifler derrière un comptoir, puis de pas bouger, de même pas cligner des yeux, faire « fuck ». Wow. Juste de rester dans ma conversation avec lui, fait que je n'ai eu un boss de même. Puis j'ai fait « tabarouette, c'est la pire personne au monde, dans le fond, pour gérer une entreprise
».
Parce que je faisais ça pour toi, dans le fond. Je faisais ça pour le bien de ton restaurant.
Ah, c'est ça.
Mais ah, lui, c'était une personne comme ça. C'était l'idée avec un grand fer. Il était hyper respecté. En fait, le monde le respectait parce qu'il avait peur de lui. Ah, mais je l'ai vu, ça. T'sais.
Mais je pense que, pour moi, personnellement, c'est pas de quoi qui est nécessairement acquis, mais c'est de quoi que faut que je mette, pas que je mette dans mon horaire, mais tu sais, que je me le répète souvent. Fait que je pense que pour du monde, même si c'est pas acquis pour toi, parce que toi, je sais que c'est quoi que t'as de la, pas de la facilité, là, mais tu vas le faire no matter what. Mais il y a certaines personnes, faut quasiment, tu te drilles à dire, il faut que je pose plus de questions au monde, puis que je m'intéresse plus, tu sais. Parce que ça me tente vraiment de le faire. C'est juste des fois, je pense pas, je suis gars plus lunatique sur la terre, là. Fait que je pense tout le temps à 56 000 affaires dans ma tête, puis des fois, j'oublie que. C'est vrai, c'est fou le monde, comment il va. Puis, fait que je pense que c'est une bonne. Tu sais, que ça soit inné ou pour toi ou pas, c'est quelque chose qu'il faut que soit fait.
Qu'ils se mettent des reminders. Puis,
Ça fait partie de ta job de leader de faire ça. Ouais. C'est juste. Tu sais, comme n'importe quel job que tu aurais, comme au restaurant, si tu n'irais pas servir de l'eau, ça serait pas correct parce que c'était ta job. Ben, ça fait partie de ta job. Ouais. Fait que n'importe où, je pense que peu importe ta hiérarchie ou comment tu es rendu, même si tu as 800 employés, je pense que. C'est de quoi apprécier. Puis c'est drôle parce qu'on a eu le. J'étais aux anciens locaux à Saint-Jérôme. Puis ouais. François, le propriétaire de la bâtisse, je sais pas si tu l'as déjà vu aller dans sa shop. Puis,
Une fois, j'ai fait le tour, il me vendait des meubles. Fait que j'ai fait le tour de la bâtisse avec
mais lui. Mais je sais pas, mais moi j'ai été une couple de fois, là, pour je me souviens plus trop pourquoi, mais il est tout le temps en train de donner des compliments à tout le monde. Puis il y a full le monde. Mais il est tout le temps en train de. J'avais eu une belle leçon en le suivant que j'étais comme, OK, c'est.
Ouais, il est vraiment nice, puis il y a genre 300 personnes dans ce bâtiment.
C'est ça. Il y a du monde, là, tu sais, puis ça fait quoi, 30 ans qu'ils sont en business. Ouais. Tu sais, c'est fou leur affaire, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment une qualité d'un bon leader, vraiment, de s'intéresser au monde, puis.
Mais de s'intéresser pour vrai, là, tu sais.
Exact.
Des choses qui se forcent pas, ça, c'en est une. Comme tu dis, ça peut se travailler, mais tu sais.
Faut que tu aies ça dans tout de vouloir t'intéresser.
Ouais, puis si tu l'as pas, t'es aussi bien de mettre quelqu'un à RH qui l'est, honnêtement, puis toi de te retirer de la gestion des employés, tout simplement.
Exactement.
Mais je pense que, anyway, résumé du premier point, c'est quoi? Vulnérabilité, donc être capable de s'ouvrir, mais aussi de s'intéresser aux autres, puis de s'intéresser pour vrai, puis c'est quelque chose qui se force pas, donc si vous n'êtes pas capable de vous intéresser aux autres, idéalement, mettre quelqu'un en place qui est EQ over IQ. Là.
Deuxième point, c'est la peur du conflit. Puis dans le fond, il apporte du fait que la peur du conflit, en tant que leader, mais aussi à l'interne. Fait qu'exemple que t'as une division, t'as une division marketing, une division de vente, une division de système, puis t'as des exécutifs dans ces endroits-là. Mais s'ils sont pas capables de confronter certaines choses, puis toi aussi d'avoir à confronter, t'auras pas d'évolution. Fait qu'exemple que quelque chose qui fonctionne pas, puis t'essaies juste de toujours avoir l'harmonie, mais tu vas jamais avancer parce qu'on règle jamais de problème. T'sais. Puis on voit dans des grosses entreprises qu'il y a beaucoup, beaucoup de politique ou ces trucs-là, mais les gens veulent jamais arriver en conflit parce que on va froisser du monde puis c'est pas ça qu'on veut. T'sais. Fait que, puis nous autres, on l'a déjà vécu qu'une certaine personne elle disait à l'autre personne qu'il y a un autre rôle, « Ouais, mais il semble que ça marche pas bien. » Puis là, l'autre personne apprend ça personnel. Puis, fait que c'est vraiment de pas avoir peur du conflit et de le mettre... En avant, que des fois, on a quelque chose à régler, puis il va avoir la tête qui va se cogner, puis c'est correct. Il faut pas que la personne soit dans le passif agressif. Non, c'est correct, vas-y, garde. Fais comme tu veux, là, c'est correct. Là. Parce que là, ça dissout le monde. T'sais. Ça fait que chacun va sur son bord au lieu de travailler en équipe. T'sais. Et je crois que nous, on n'a pas vécu beaucoup de choses comme ça, sauf que ça me fait penser que dans le futur, il va arriver, quand tu vas avoir des directeurs de département, tout ça, qui vont avoir à arriver à un consensus sur une idée ou sur quelque chose, qu'il va falloir qu'il y ait du conflit. T'sais.
Nous, on le vit.
Ouais?
Ouais, nous autres, on le vit. Parce que, admettons, moi, j'ai les opérations du lab, DP, les opérations de Believe, Sarah a fait tout le brand management puis l'athlete management. Ensuite, on a Eve qui fait tout le marketing puis la coordination marketing. T'as Max qui est juste aux ventes avec une équipe de vente. Fait que souvent, il y a du monde qui se pile ses pieds ou il y en a un qui n'a pas fait sa job ou qu'il y a eu un manque de communication puis là, ben c'est à faute de qui? Puis, tu sais, comme nous autres, on le vit. Puis je le vois, puis il y en a des confrontations puis c'est bon pour le bien de l'équipe. Mais souvent, ces confrontations-là, ils se font one-on-one. Ils se font jamais devant tout le monde ou dans des groupes chat publics. C'est toujours du one-on-one. Puis si, admettons, je vois qu'ils sont pas capables de régler le conflit entre eux, ben là, on embarque sur un appel à trois. Souvent, ça va être avec moi parce que moi, j'aime ça faire ça. J'aime avoir ce genre de conversation-là. Fait qu'on entre un médiateur dans la conversation, puis ça se règle super bien, tu sais. Mais je pense pas que c'est bon de brasser son linge sale en public, tu sais, le 100%. Moins souvent possible. C'est vraiment important.
100%.
Parce qu'il faut pas créer des clans en interne, puis que le... Tu sais, c'est... Moi, je le vois quand il y a des problèmes, ben, tu sais, essayez de brasser votre linge ensemble, puis si vous êtes pas capable, on rentrera un médiateur. Ou même si vous êtes capable, même si vous avez réussi ensemble, on va quand même rentrer un médiateur après pour le refaire ensemble, refaire la route ensemble, puis ça serait que tout est correct. Ça.
Mmh.
Mais c'est normal, dude. C'est une business en croissance, une famille. C'est, je veux dire, si t'as 12 frères et sœurs, vous allez vous pogner tout le temps. Là, ça va arriver. Là, ouais, parce que tout le monde care. Parce que quand il y a de la chicane, c'est parce que le monde care. Parce c'est que s'il n'y a pas de chicane jamais chez vous, man, c'est pas bon, honnêtement.
Mais dans le livre, il raconte que tu peux avoir des clans qui se forment, comme tu dis, puis qui mettent leur croissance à eux, puis leur croissance de leur... De leur job, puis leur avancement de leur job avant la mission commune puis la croissance d'entreprise. Et c'est là qu'ils commencent à avoir plein de problèmes. Et c'est là que le monde devient passif-agressif, puis ils règlent pas les problèmes, puis ils s'en vont chacun de leur bord. T'sais. Puis je pense aussi, la peur du conflit en tant que leader, c'est la peur, on a parlé dans l'autre épisode d'avant, mais d'avoir les conversations difficiles avec le monde, de prendre les décisions difficiles pour faire avancer la mission.
Mais ça, je pense que c'est un autre skill en entrepreneuriat, puis... Plus ça avance, plus je réalise que si tu vas avoir du succès dans la vie, tu n'auras pas le choix de constamment avoir des conversations difficiles. Mm-hmm. Des conversations vraiment difficiles, donc vraiment tough, j'en ai peut-être une à chaque 6 semaines, mais des conversations que je considère chiantes, difficiles, auxquelles je pense dans une journée, j'en ai probablement une à chaque 2 semaines, peut-être à chaque 10 jours.
Oh shit.
Ouais, ça arrive souvent. Tu sais, je veux dire, on est quand même 18, mais des conversations difficiles, j'en ai pas juste avec le staff. Je peux en avoir avec des clients, je peux en avoir avec des fournisseurs, mm-hmm. Je veux dire, j'ai des histoires pas possibles avec des fournisseurs, des fois, là. Des conversations tough, là.
Mm. Il faut pas avoir peur là-dessus.
Mais l'histoire du succès, ça fait partie de la game, là. Mm. Tu sais, un client qui cogne à ta... un employé qui cogne à ta porte pour négocier une augmentation, c'est une conversation difficile. Mm. Mais cette conversation difficile-là, si elle se règle pas là, elle va en apporter une ou deux autres sur le même sujet. Ça, c'est une personne. Mm.
C'est comme un couple. Mais t'en as plein.
T'en as plein constamment.
T'as à t'occuper de chaque relation.
Puis tu sais, admettons, ceux qui vivent le partenariat en affaires, admettons, moi puis Max, pas tout le temps été facile. Là, ça va super bien. Ça va... On s'est toujours entendu sur les valeurs, la mission de l'entreprise. Ça, c'est le fun. On a toujours regardé dans la même direction, 100% du temps. Mais sur des micro-décisions, on n'a pas toujours été d'accord. Tu sais, sur des façons de faire, sur des décisions budgétaires, sur il y a plein de choses... Ceux qui vivent du partenariat, des conversations difficiles, t'en vis tout le temps. C'est pour ça que je t'ai dit que j'en vis quand même fréquemment. À savoir, tu sais, le financement, on le pointe dans quelle direction, qu'est-ce qu'on fait avec. T'sais, on a eu des grosses marges de crédit avec Desjardins pour faire des gros moves. Au début, on voulait acheter une bâtisse, je l'ai raconté. On a pris un step back, on n'a pas acheté. On a pris cet argent-là, on l'a redistribué ailleurs. Je veux dire, il y a des conversations qui viennent avec ça. Là. Puis si tu veux avoir du succès, c'est normal d'avoir des conversations difficiles. Puis ça fait partie de la game. Puis si t'es pas capable, tu pourras pas te rendre là. Là.
Le prochain, c'est « lack of commitment », donc le de pas être engagé. Je pense autant au niveau du leader que chaque membre de l'équipe. Tu sais. Puis encore là, comme je disais tantôt, c'est que le monde mette leur... Ou même le leader met son gain personnel en avant du gain de la compagnie puis la mission ultime. Tu sais. Puis qu'on le voit, je pense, des fois, j'imagine que ça peut être ça. Tu sais. Sur Instagram, c'est facile voir la vie des gens riches et célèbres puis se dire, aïe, aïe, moi aussi, si je veux avoir la maison sur le bord de l'eau, sur le lac Tremblant ou le gros char ou ces affaires-là, tu sais. Puis c'est bien correct, sauf qu'il y a du monde qui sont trop, des fois trop tôt dans le processus de dire, est-ce que ça ralentit ma croissance d'entreprise faire ces moves-là? T'sais? Puis si tu mets ton gain personnel, puis je suis tout pour se récompenser, puis c'est important, là, cette affaire-là, là. Mais si tu mets ton gain personnel avant le gain de ta compagnie ultime puis ta mission ultime, je pense que ça se ressent, et les gens aussi vont faire ça. T'sais? Puis si les gens commencent à mettre leur gain personnel, leur avancement au niveau de la carrière avant l'avancement au niveau de la compagnie, ou du moins que c'est pas ensemble, qu'ils voient pas qu'en aidant la compagnie, eux-mêmes vont pouvoir s'avancer, je pense que ça devient un problème. C'est ça qui explique un peu dans ce livre-là. Et je pense qu'une des affaires les plus simples à faire, c'est juste d'être sur la même page. Je disais avec Max que vous avez une mission, une vision commune, mais si tout le monde est c'est la même page, puis tu sais que c'est quoi les objectifs de chaque personne, puis c'est quoi tes objectifs personnels, puis on parlait tantôt de vulnérabilité, de dire, toi, c'est quoi ton char de rêve, c'est quoi ton affaire de rêve, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux pour chaque personne, ben tout le monde sait les attentes, puis sait où est-ce qu'on s'en va, puis vont être enclins d'aller vers ça.
Mais il faut que tu les aides à aller vers ça, puis là, ça va m'emmener ailleurs tantôt, dans un de tes prochains points, là, je veux pas en parler tout de suite, mais... Je reviens aussi à ce que tu as dit tantôt de walk, tu sais, walk the walk, pas juste talk the talk, parce que si tu t'ajoutes des bébelles, comme moi j'en ai des bébelles, tu sais, j'ai un 8, j'ai un bateau puis tout, mais il n'y a pas un staff qui en fait plus que moi, puis ils le savent. Mm-hmm. C'est ça l'affaire. Fait qu'ils respectent ces choses-là. Puis j'ai un podcast aussi, ils sont capables d'entendre mes histoires, savoir de où je viens. Fait que si t'as pas de podcast, ces choses-là, c'est important de partager avec ton équipe. Peut-être aller dîner avec eux autres une fois de temps en temps, t'asseoir avec eux, puis raconter une histoire du passé. Parce que t'as du monde que, je sais pas, moi, ça fait 5-6 ans que ta business, ça roule. Il y en a que ça fait 3 mois qu'ils sont arrivés, ils te voient rouler dans ta bébelle. Eux autres, là, dans leur tête, ça, c'est apparu du ciel, cette business-là. Ils savent pas, là. Fait que c'est important, tu t'assieds avec eux, tu partages les histoires du passé. Si tu veux que ton staff respecte ces bébelles-là, il faut qu'ils connaissent ton histoire. C'est vraiment important de... Tu sais, on parle souvent que la business, c'est important qu'elle partage son histoire avec sa clientèle. C'est important qu'un propriétaire d'entreprise partage son histoire personnelle avec ses employés. Si tu veux que tes employés te respectent, puis t'aiment. Puis en même temps, ben ça, tu sais, je pense que c'est la base du leadership, de l'idée par l'exemple, puis... Ce que tu demandes à tes employés, tu le fais-tu toi réellement?
Puis tu sais, je pense que... En tout cas, moi, je sais pas si c'est la meilleure chose, mais moi, je suis super transparent au niveau des chiffres, tu sais, puis des pourcentages, puis des affaires. Puis tu sais, je pense que ça aide au monde à comprendre que oui, on a un objectif financier au bout de la ligne qu'on veut atteindre des affaires. Mais après ça, je fais des petits diagrammes où est-ce que je monte les pourcentages. C'est parce que si je me paye des affaires, ben c'est ma paye que j'ai travaillée, puis... That's it, là, tu sais, autant que toi, si ça ferait 13 ans que t'es dans ma business puis que tu fais tout ce que je fais, je te paierais clairement ce salaire-là aussi, là, tu sais, ça vaut ça, tu sais. Fait que, puis de comprendre les risques aussi, là, tu sais, que, tu sais, nous autres, au mois de janvier, on a fait un énorme mois, mais on a arrivé comme 10 000 dans le rouge. Mais je l'ai partagé, tu sais. Mais juste qu'ils comprennent que, ah, Chris, des fois, on a fait des gros chiffres, mais ouais, mais il y en a sorti 10 000 de plus qu'il y en a rentré ce mois-ci. T'sais, c'est pas ça tout le temps, mais il y a des mois de même qui arrivent que tu sais qu'il y a des moves qui arrivent ou que ça faut donner de l'argent au gouvernement, des affaires en même, tu sais. Puis, en tout cas, moi, je pense que d'être transparent comme ça, ça peut aider. Je sais pas, j'ai peut-être du monde qui pourrait me contredire, là. Je sais pas.
Non, moi, écoute, je suis comme toi, je suis pro-transparence tout le temps. Je raconte toutes mes histoires. Mes employés, je raconte 1 million de choses. Tu sais, je trouve ça intéressant, justement, que tu dis que ça a été notre meilleur mois à vie, mais crème, on a été déficitaire. Les employés savent pas cette histoire-là. Ils se disent crème, on a fait un mois de rêve, puis il y a personne qui reçoit une enveloppe. Là.
C'est ça.
Personne qui reçoit une enveloppe.
Faut dire juste qu'ils comprennent que, tu sais, la job d'un leader, c'est, oui, de vivre les affaires qui vont être le fun qui va avec ça, mais... Quand tu t'arrives avec un mois record puis que t'es 10 000 dans le trou, des fois quand tu dors, tu dors pas aussi bien que quand que t'es 100 000 over, là, ou des trucs dans le même. T'sais. Fait que je pense que c'est de leur faire comprendre un peu toi, ton commitment à travers ça. Puis comme on disait, walk the talk, que ça va amener à plus de commitment. J'ai oublié le terme en français.
Mais sais-tu, je pense que si tu t'achètes des bébelles puis t'es gêné de tes bébelles, ça n'a pas besoin d'être tes bébelles, ça peut être des voyages ou whatever. Y a quelque chose de off. Il y a quelque chose de off dans la culture ou dans l'environnement, c'est sûr et certain, parce que jamais tu devrais te sentir off de ça. Là. Je veux dire, c'est des grands accomplissements. Là. Imagine ne pas être capable d'y goûter parce que t'as peur de qu'est-ce que ton gars d'entrepôt va penser ou tu sais.
Ah, moi, j'ai de la misère un peu avec ça, pour eux.
Non, il y a quelque chose de off. C'est sûr qu'il faut que tu révisites tout ça.
Mais moi, c'est plus au niveau des vacances. Puis des. Mais c'est quand même un bon challenge, moi, personnellement, je trouve. Fait que je sais pas. C'est
les
sûr
vacances,
que...
tu vois, je trouve. Je suis comme plus d'accord avec toi, mais en même temps, est-ce qu'on a une mauvaise vision des vacances ou une mauvaise façon de. Je sais pas, man. Parce que je suis quand même d'accord avec toi par rapport aux vacances, dans le sens que même si. Tu sais, l'autre fois, je disais à des prix, fuck, man, je suis brûlé ou je t'aboute, puis tu as dit, prends-moi une semaine, tabarouette, ça fait. Je sais pas combien. Puis je suis comme, je peux pas, man. Mais dans ma tête, peux pas, mais on dirait que mon staff m'écrit après pour que j'en prenne une, tu comprends?
Ouais, c'est
jamais il se dirait crime, il a arrêté de travailler ou il a tiré à bloc, parce que même je partirais 2 mois dans le sud, man, ça changerait rien. Là.
Mais je pense que ça vient, parce que je vais parler pour moi, puis je pense que tu vas te reconnaître, je pense que ça vient des croyances que, tu sais, moi, le pire boss que je veux être, c'est genre le boss qui est parti, puis que ses employés disent « Ah, galé, esti, lui, là, nous autres, on travaille comme des bons, puis ça, fait que... » moi, c'est tout le temps de quoi que j'ai eu que je veux pas faire vivre au monde. Fait que là, on dirait que j'ai tout le temps comme... Quand je pars en vacances ou je fais de quoi, je me sens tout le temps comme pogné dans cette croyance-là qu'il faut que je défais petit à petit.
Mais les employés... Tu sais, ce scénario-là que tu parles, c'est les employés qui parlent comme ça d'un patron. C'est un amas d'action quotidienne qui fait en sorte que les employés parlent du patron de cette façon-là.
Je sais rationnellement.
Ça fait aucun sens, tu sais, parce que je veux dire qu'on les deux qu'on grind tout le temps puis qu'on est là pour notre staff, puis ils le savent, puis on les aime, puis ils nous aiment, puis on a une belle culture, puis on travaille fort cette culture-là, quand même bien qu'on part 2 mois dans le sud, ils vont continuer de nous aimer, puis de se battre pour nous autres, puis de se battre avec nous autres, c'est pas pour nous autres, c'est avec nous. Puis ça, tu sais, je sais de tous les 18 employés qu'on a, là, je sais tout, chacun d'eux, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur futur, puis comment moi je peux les aider là-dedans. Puis eux savent comment moi je peux les aider là-dedans aussi. Puis c'est ça qui crée le réel sentiment de confiance, parce qu'ils savent que eux travaillent pour moi, mais moi je travaille pour eux ultimement, en fond. Là.
Ouais, c'est bon. Puis ça fait penser, tu sais, vous avez ça, un organigramme, tu sais, avec les postes, ces affaires-là. Puis j'ai lu ça l'autre jour, puis tu sais, il disait switch ton organigramme de bord, tu sais, puis explique au monde que moi je travaille pour. Puis Alexandre Francis Barbara.
Ouais. Mm-hmm.
Puis eux autres travaillent pour. Fait que, puis c'est ça pareil, tu sais, ultimement, parce que si moi je fais de quoi pour partir une campagne, whatever, pour du marketing pour amener des clients, ben je le fais pour eux autres, pour qu'eux puissent atteindre leur objectif, puis qu'ensemble on atteigne, tu sais. Fait que. Mais bref, c'est ça, mais je pense que ce que je disais tantôt, c'est un cheminement que j'ai à faire. J'imagine qu'il y a d'autres monde qui écoutent aussi qui ont ce cheminement-là à faire, de dire que j'ai le mérite d'avoir.
Mais sais-tu, ça m'amène ailleurs. Ça, c'est. Tu sais, j'avais fait un épisode sur le What's in it for me. Je sais que tu l'avais utilisé à un moment donné dans une de tes formations, je pense. Où... Il y a un. Quand vient un changement dans l'entreprise, il y a un What's in it for me pour les employés ou pour l'employé qui est targeté par ce changement-là. Je t'explique, je te donne un exemple. Avant que je te donne un exemple, je prends deux secondes. Si vous écoutez sur Balados, s'il vous plaît, guys, mettez ça sur pause. On sort de l'épisode, 5 étoiles, un commentaire écrit. Si vous écoutez sur Spotify, on s'assure d'être abonné. Si vous aimez l'épisode, s'il vous plaît, partagez sur Instagram, ceux qui le font. Je vous aime, merci. Mais surtout, les commentaires écrits sur Apple Podcasts, là, vraiment, j'adore. Puis, shout-out au studio créateur. Si vous voulez améliorer votre podcast, si vous voulez enregistrer un nouveau podcast, vous avez une idée, venez voir Kiki. À Laval, si vous êtes de la Rive-Nord, bien sûr, dans ce coin-là, j'adore, on est bien accueillis, les sièges sont confort, la qualité est le fun, les caméras sont nice. Jake était super content quand il est venu, super impressionné. Fait que si vous voulez un bel endroit pour enregistrer des podcasts, venez ici. Je suis pas payé pour dire ça, je le dis parce qu'on est vraiment bien, c'est cool. What's in it for me pour les employés? Okay, je te donne un exemple. Il y a un de mes notre gestionnaire d'entrepôt, admettons, là. Parce qu'on a trois personnes qui font du shipping. Notre gestionnaire d'entrepôt, je sais qu'il est avec nous autres pour le long run. Je sais qu'il est avec nous pour un bon moment. Je sais qu'est-ce qu'il veut. Fait que je vais l'aider à voir qu'est-ce qu'il veut. Il n'y a pas longtemps, on a intégré dans notre système d'expédition des scanners. Des scanners, c'est super cool pour nous autres au niveau de la gestion parce que ça coupe les pertes. Ça s'assure que les clients ont toujours les bons. C'est plus facile pour la gestion d'inventaire, pour DP, etc., etc. Par contre, pour les gars d'entrepôt, ça vient vraiment compliquer leur vie parce que, un, faut que tu apprennes à utiliser un software. Il faut que tu scannes chacun des produits que tu mets dans la boîte tout le temps. Il faut que tu scannes tes packing lists. Il faut que tu imprimes toi-même les bons de commande. Bref, je viens d'environ tripler ton temps pour faire une commande. Je viens de le tripler, sauf que moi, je vais venir sauver beaucoup d'argent dans le shrinkage d'inventaire puis les erreurs online puis ces choses-là. Parce que faire une erreur online, c'est cher. Parce que quand tu envoies le mauvais produit, non seulement tu lui dis de garder le produit, mais en plus, tu en renvoies un autre. Fait que tu payes le cost sur le produit perdu, tu repayes un shipping, non seulement ça, mais cette personne-là a un produit qu'elle n'était pas supposée avoir pendant encore plus longtemps, ça veut dire que ce produit-là, elle ne te le rachètera pas. Ou elle va te le racheter plus tard, mais elle ne te l'avait pas acheté à base, ça veut dire que maintenant, elle a peut-être 45 jours de supply avec ça. Fait que pour nous, ça faisait beaucoup de problèmes. Fait que quand j'ai présenté ça au gars, la première friction que j'ai eue, c'est « crime ». La première chose qu'ils m'ont dit, « crime, ça va être long faire des commandes ». Là, je te tabarouette, faut vraiment que je désamorce ça, parce que si je désamorce pas ça, ils vont commencer à se craquer entre eux autres contre notre décision. Puis là, ça va être encore plus difficile pour moi d'implémenter le scanner. T'sais. Parce que pour faire du retail, c'est encore plus long. J'ai une commande de retail, des fois, ça fait deux pages de packing list. Crime, c'est long, là. Faut que tu scannes 44 burners, 44 pina colada, 44 sex on the beach. Tu sais, je veux dire, 24 protéines, 20, ça finit plus. Fait que j'en monte dans mon bureau, je pense à ça. Je redescends dans l'entrepôt. Je dis, les boys, voici pourquoi qu'on implémente le scanner. Parce qu'à long terme, si je continue d'avoir du inventory shrinkage comme que je fais en ce moment, parce que shrink peut-être, je sais pas moi, je lance un chiffre dans les heures, shrink 2000$ d'inventaire à tous les mois parce qu'on fait des erreurs sur toutes les commandes en ligne, puis les erreurs de retail, puis les affaires qu'on ship. Je peux pas faire continuer d'augmenter ton salaire. C'est impossible. J'ai trop d'erreurs dans le back-end. C'est impossible pour moi quand j'arrive à une table de négociation de dire « OK, X personnes méritent plus d'argent dans l'entreprise ». Parce que techniquement, un des indicateurs de performance, c'est que vous ne faites pas d'erreur. Fait que moi, en implémentant un scanner, oui, ça va te prendre plus de temps à envoyer des commandes. Mais pour toi, ce n'est pas un indicateur de performance nécessairement, la vitesse d'exécution des commandes. Qu'est-ce qui est important pour toi, c'est de jamais faire d'erreur. Fait que d'y faire comprendre que le fait que j'entre un scanner, oui, ça va ralentir le fait d'envoyer des commandes, mais ce n'est pas le vrai indicateur de performance dans ton cas. L'indicateur de performance, c'est de ne pas faire d'erreur. Fait que moi, je te donne un outil qui va permettre à ton salaire d'augmenter parce que je vais descendre mon shrinkage Puis cet argent-là que je perdais dans le shrinkage, je vais te la donner à toi, ça me faire plaisir.
Solide.
Fait que là, oh, jour au lendemain, le scanner, c'est la plus belle affaire. Puis là, c'est quand que ça rentre pour le retail, c'est quand qu'on va avoir plus de scanners.
Très fort.
Fait que c'est quoi, tu sais, what's in it for me quand tu fais un changement? Mm-hmm. C'est important de passer du temps avec eux autres pour qu'ils comprennent le changement.
Puis les KPI, tu sais, les indicateurs de performance, je pense que ça, c'est un bon point, là, que ça soit clair, c'est quoi tes indicateurs, tu sais. Parce que nous, ce que je me suis rendu, c'est qu'on poussait gros sur les clauses de nouveaux clients tous les mois. Mais j'avais pas fait d'indicateur sur le renouvellement. Ces témoignages qu'on avait, ces référencements qu'on avait sur la rétention client, sur les sondages clients avec des pourcentages puis toutes ces affaires-là. Puis là,
le monde ne perd pas de temps là parce que ça n'a aucun impact sur le.
Exactement, parce que les autres sont payés sur la commission quand ils vendent, tu sais. Puis là, aussi, c'est ça, c'est un autre changement qu'on est en train de faire. Là, on est comme, OK, ben le monde qui aime pas tant la vente, ils veulent juste avoir des clients puis s'en occuper. Ils n'ont pas moyen de faire plus d'argent. Fait que là, dans le fond, lundi, demain, on a un meeting, mais là, j'ai trouvé une façon que, OK, mais quand t'as tant de clients, t'as un bonus de temps, puis plus t'as de clients, plus t'as... Parce que nous, on paye annuel, là, c'est moins compliqué. Mais là, on va avoir des bonus par rapport au nombre de clients, puis par rapport aussi si les gens sont contents ou pas de ton service. Mm-hmm. Fait que là, on va switcher l'attention des membres de l'équipe sur les clients, parce que c'est ça qui est le plus important, tu sais. Mais on l'avait perdu de vue un peu pour moi, c'est comme inné, c'est juste... C'est inné.
Ouais,
c'est...
Mais tout ce qui est inné pour nous, c'est inné pour eux.
Le problème, c'est les non-dits. C'est tout le temps ça. Fait que...
Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans la pyramide, justement, le manque de clarté qui fait en sorte qu'il y a des focus individuels. Mm-hmm. Le manque de clarté des KPI, comme tu dis, des Key Performance Indicators, c'est que la personne, elle ne sait pas réellement sur quoi focusser. Fait qu'elle va focusser sur qu'est-ce qu'elle croit qui est le bien pour toi, pour augmenter son bien individuel. Mais quand tu lui exposes la réalité de la chose, souvent, ça va changer. Mon exemple de scanner, ça a été un des plus gros exemples d'intégration de changement pour un employé où j'ai vu énormément de friction, puis j'ai été capable de le désamorcer comme ça, juste en ayant plus de clarté au niveau du KPI. Là.
Bravo.
C'est prochain bon point, man.
de pas se tenir accountable. C'est quoi en français?
Fuck, j'ai tout le temps de la misère.
Redevable. De pas être redevable.
Redevant ou redevable?
Bref.
Accountable.
Peux-tu checker, Vin, c'est quoi en français sur Google? Accountable, c'est un translate?
Responsable.
Bon.
Se tenir responsable. Ouais, ça doit être responsable.
Se tenir responsable ou. Bref. Oui, envers le leader, mais entre eux aussi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que. Des fois, il y a des frictions de genre. Hey, t'es-tu arrivé 15 minutes d'avance pour ton client? Ou hey, t'as-tu fait telle affaire qu'une autre personne au même niveau que toi te le dit? Là, ça crée des frictions parce que t'es qui pour me dire ça?
Ouais.
Mais ça, c'est quelque chose qui est ultra, ultra important. Tu sais, que ce soit au niveau de tes objectifs, tu sais, hey, toi, t'en es rendu où cette semaine avec tes objectifs? Ah, moi, je suis rendu là. Puis que le monde se tient accountable ou. C'est quoi le vrai terme? T'as-tu checké?
Redevable.
Redevable. Redevable ou responsable ou whatever entre eux. C'est quoi qui est ultra, ultra puissant, mais c'est dans le top de la pyramide parce que si t'as pas confiance aux gens, si t'es pas capable d'avoir des conflits, puis si t'es pas commitment à fond, ben jamais que tu vas aller challenger les autres. T'sais.
Mais je t'arrête deux secondes parce que toi, qu'est-ce qui est différent avec moi, par exemple, c'est que c'est le fun parce qu'on a les deux dynamiques, toi et moi, t'es une business de service, moi je suis une business de distribution et de manufacturing. Comment tes coachs peuvent être redevables un vers l'autre quand ils travaillent dans des lignes qui sont complètement uniques à eux-mêmes. Dans le fond, les clients ne s'entrecroisent pas en deux coachs.
Ben oui, des fois.
Ouais, OK. Ouais.
Mais des fois, non. Mais c'est plus au niveau de... Tu sais, même au niveau de leur objectif personnel ou à toutes les semaines, dans le fond, dans notre meeting, nous autres, c'est quoi ton bon coup personnel, c'est quoi ton bon coup professionnel, puis c'est quoi ton objectif de la semaine, puis c'est quoi ton bon coup client, tu sais. On partage ça tous les lundis. Mais si quelqu'un est comme... mettons, Fred, l'autre jour, il est comme « Ah là, la semaine passée, j'ai pas étudié. Là, cette semaine, il faut que je finisse ma formation AT. » Là, j'ai dit « OK, mais regarde, Fred, si tu l'as pas la semaine prochaine, tu donnes 500$ à tout le monde. C'est bon? » Là, Fred, « OK, c'est bon. » Fait que là, on fait des choses pour qu'ils soient redevables, tu sais. Mais graduellement, ils s'ancrent entre eux sur leur objectif personnel, leur objectif professionnel. Il y en a qui veulent des postes plus élevés aussi dans la compagnie. Fait que graduellement, mais ça, je pense que c'est quoi qui est ultra simple et qui doit être fait. Mais toi, comment tu...
Tu vois, c'est pas quelque chose que je vis nécessairement à l'interne, dans le sens que nous, la différence avec vous, c'est que la plupart des départements vont travailler ensemble de façon, de façon horizontale tout le temps.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'ils ont pas le choix de travailler ensemble. Fait que souvent, comme je disais tantôt, quand il y a un problème, il y a un bobo entre deux, ben souvent, il va y avoir un médiateur La plupart du temps, ça va être moi, à moins que c'est de la vente, ça va être Max. Là. Mais sinon, ça va être moi au niveau des opérations qui va rentrer puis voir le problème. Si ça a été au niveau des expéditions de commandes, commande ou des problèmes de même, mais ça va être DP qui va rentrer. Fait qu'il y a toujours un médiateur qui vient régler les problèmes. Mais
je pense peut-être que tu le vis pas parce que ta boîte de pyramide est tellement solide que t'as même pas besoin de te demander si ça fonctionne.
T'sais. Honnêtement, non.
Parce que ça l'amène, tout ça amène à ce qu'il va y avoir tu vas être redevable, tout le monde va être redevable parce que si quelqu'un fait pas le job, puis c'est comme t'es dans un radeau, puis là tout le monde rame à la même vitesse, puis il y en a un, il arrête de ramer, puis il se met la tête au soleil, il y a quelqu'un qui va lui dire.
Puis pour nous, ça arrive pas parce que mes positions de leader, c'est tout du monde qui veulent grossir, c'est tout des entrepreneurs, c'est tout du monde qui veulent grossir dans Believe, c'est tout du monde qui ont soit des objectifs financiers ou de temps avec nous, ou qui veulent des objectifs de carrière avec nous, à travers nous autres. Fait qu'eux autres travaillent tous ensemble pour un but commun, pour que Believe grossisse, mais ultimement, c'est pour un but individuel d'atteindre eux-mêmes qu'est-ce qu'ils recherchent. Mm-hmm. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'employés qui sont là juste pour être là ou qui ont d'autres. Je sais pas, peu importe. Moi, t'étudies en biochimie à l'école, puis tu veux sortir puis être biochimiste. On n'en a pas beaucoup de ça, nous autres.
Mais je pense que ces choses-là, ça arrive peut-être quand t'es, mettons, 15 ans, 20 ans, 30 ans en business, tu sais. Ces genres de challenge-là, d'accountability, d'être redevable ou d'autres affaires, j'imagine que c'est des affaires qu'il faut tout le temps garder en tête parce que ça doit tellement être un autre game. J'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un, mettons, qui est juste là, qui écoute, qui a 300 employés, puis qu'après ça, il nous dit juste « Ouais, ça, les gars... »
Non, c'est ça, parce que c'est nous autres, on a juste 18 personnes, c'est dur pour moi d'être... Ouais. Pour nous, c'est pas un problème actuellement.
C'est ça.
Est-ce que ça en deviendrait un si on exploserait puis on passerait de 18 à 55 employés en dedans de 3 mois? Sûrement. Probablement, mais à la vitesse à laquelle on embauche, on est capable de prendre notre temps. Puis,
je pense là, que quand ta culture est solide, là, quelqu'un il rentre, là, il, tout de suite,
il n'y a pas le choix d'embarquer.
Il n'y a pas le choix de s'adapter, sinon il s'en va ou il se fait dehors. Tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important que le bas de la pyramide soit ultra, ultra solide.
Absolument.
Et, parce que c'est ça, tu sais, ta base, tu sais, selon moi, où est-ce que, puis je suis sûr que tu es d'accord avec moi, où est-ce que je suis, puis toi, où est-ce que tu es, par rapport à ta vision ultime, puis ma vision ultime, moi, je suis dans le début de ce qu'on va créer dans les 10 prochaines années, puis toi, la même chose pour Believe, je sais que... Fait que si c'est... Puis on s'entend, 18 employés, c'est quand même beaucoup, mais si ces 18-là sont ultra soudés, puis la culture est ultra solide, c'est comme... Tu vas être 50, 150, 3000, la culture va rester, puis ça va...
Parce que tu veux faire partie de la gang quand t'arrives, ben, je veux dire, il faut que tu vas à la même vitesse que tout le monde, puis... Mais... jamais oublier que ces personnes-là, ils ont des objectifs individuels qui n'ont pas encore été atteints. Fait que, tu sais, si Believe, admettons, en ce moment, on est à, je sais pas moi, 8 millions annuels, on passe de 7-8 à 29-30. Donc, je suis rendu à 29-30. Puis, mes 3-4 là-dedans qui veulent faire 150, 175 000 sont rendus là, à 175 000. Est-ce qu'ils vont avoir la même hargne quand ils vont avoir atteint cet objectif-là? Où ils vont pouvoir nous aider de passer de 29-30 millions à, je ne sais pas, moi, 100 ou 110 millions. Peut-être qu'ils vont avoir moins faim. Fait que, tu sais, c'est des défis que j'ai pas encore vécu nécessairement parce que je suis pas rendu là. Puis j'ai hâte de voir comment je vais manœuvrer à travers ces défis-là un jour, si un jour on se rend là. Mais c'est comme le monde dans NCAA, le football. Tu sais, ou dans NHL, ils sont craqués maintenant junior majeur. Tu sais, ils manquent pas leur diète, ils sont tout le temps au gym, tout le temps au training parce qu'ils veulent faire la NHL. Mais quand ils arrivent dans NHL, 2 ans plus tard, t'entends plus parler d'eux autres, mais ils jouent sur la 3e, 4e ligne, mais tu sais, ils font leur salaire d'NHL, ils sont rendus là, ils ont atteint leur but, puis oups.
Mais je pense que ça dépend pourquoi tu le fais aussi, parce qu'à un certain moment donné, puis tu sais, l'argent, je veux dire, c'est juste un véhicule, puis à un moment donné, c'est que, mettons, tu fais 150 000 par année, perso, là, je veux dire, à un moment donné,
c'est pas heureux à 150 000, c'est sûr que t'as des problèmes, là, mais...
Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de différence, je sais pas c'est où est-ce que j'ai lu ça, là, mais tu sais, rendu, je pense, à 75 ou 80 000, il n'y a plus de différence.
Moi, je pense que c'est 83, là, l'étude, où il y avait peu ou très peu d'impact sur ton niveau de bonheur, mais...
Tu sais, je pense que l'affaire, c'est que rendu là, la vision est tellement plus grande que juste monétaire que... En tout cas, je pense que si les gens se sont rendus là puis qu'ils ont fait ce qu'il faut, c'est que c'est plus monétaire, c'est... La legacy, c'est qu'est-ce que Believe va laisser, c'est beaucoup plus loin que ça, c'est l'impact.
Mais là, je parle pas de moi en tant qu'entrepreneur.
Non, mais je parle des gens. Moi, je parle
des gens à l'interne.
Mettons comme DP.
Parce que moi, je peux déjà financièrement tirer à plat que ça fait longtemps.
Mais c'est ça, mais je
continue
je pense qu'un gars comme DP, je le connais pas beaucoup, là, mm-hmm. mais salut DP si tu nous écoutes. Mais tu sais, ce genre de gars-là, je pense qu'il va arriver à avoir son salaire de rêve, mais il va toujours vouloir continuer parce qu'il va avoir de l'impact puis il veut changer les choses.
T'sais. Ouais, 100%.
Les entrepreneurs, c'est la même chose, mais à travers une entreprise. C'est juste que, tu sais, souvent, c'est puis je pense que c'est vraiment une belle place à être quand t'es entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise parce que t'as pas à te casser la tête avec plein d'affaires. Oui, mais moins. Puis t'embarques dans le véhicule, puis le véhicule, il est là, puis ça t'amène où est-ce que tu veux aller, tu sais. Mm-hmm. Fait que, mais c'est une bonne question, je sais pas qu'est-ce
que j'ai aucune idée, je suis pas rendu là, mais c'est des défis que je vois venir un jour. Ah, ouais. On verra, tu sais. Mais... Ouais.
Ouais. Puis dernier point, c'est l'inattention au résultat. Fait que je pense que c'est les KPI que tu perds de vue les objectifs ultimes, tu sais. Que ce soit pas clair, net et précis où est-ce que tu t'en vas, puis qu'est-ce qui est important. Parce qu'encore là, comme tu disais tantôt, c'est exactement ça. C'est pas important la vitesse à laquelle tu fais les produits, c'est important qu'on fasse pas d'erreur. Mm-hmm. Fait que de mettre ça tout le temps en perspective, c'est quoi nos objectifs, pourquoi c'est important, puis qu'est-ce qui va arriver quand on va les atteindre, puis pourquoi qu'on doit les atteindre tous ensemble.
Puis sais-tu quoi, c'est important aussi d'être clair à qu'est-ce qui m'arrive moi si on n'atteint pas ces objectifs-là, puis si ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui va t'arriver à toi dans le fond.
Mm-hmm.
Fait que si vous faites des erreurs dans les commandes, moi je shrink dans l'inventaire, je bloque ton salaire, je peux pas monter plus haut. T'sais. C'est vraiment important aussi de pas juste montrer le positif, mais aussi montrer l'envers de la médaille.
Mm.
Si on n'atteint pas ça, voici qu'est-ce qui va nous arriver en tant que groupe, voici qu'est-ce qui va nous arriver en tant qu'individuel. Parce qu'ultimement, chacune de ces personnes-là pense à eux avant de penser à nous. Puis c'est la même chose pour nous. Je veux dire, l'humain est égoïste en soi. Je veux pas parler pour tout le monde, mais je pense qu'on a chacun nos objectifs personnels avant d'avoir des objectifs en équipe. Puis ensuite, on travaille tous en équipe pour que tout le monde puisse atteindre ses objectifs individuels-là. Mais
c'est intéressant parce que toi, t'es un gars beaucoup évité de fuir.
Ouais, ouais, moi, je suis un
fuir. Puis moi, je suis un lever, fait qu'on a dit deux affaires. Mais ouais, c'est ça, mais ça m'amène à penser que.
Moi, j'évite quelque chose constamment, mais tu sais.
Mais dans l'intérieur de mon équipe, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont plus évités d'eux.
Ouais.
Mais moi, je parle tout le temps à lever, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que.
Mais c'est pour ça que pour moi, on s'est oups. Tu sais, on se repogne tout le temps, mais on dit la même chose de l'autre sens.
Ouais,
mais...
c'est ça. Mais ça, c'est un bon point, par contre, parce que tu sais, il faut que tu sois capable de voir la quelle façon que tu peux motiver les gens.
Ouais.
Parce qu'il y a deux façons, aller vers quelque chose ou éviter
ça,
quelque chose.
Ça, je suis moins bon que toi, j'ai moins l'œil pour ça. Fait que souvent, je vais leur parler en éviter d'eux. Il faudrait que je sois... Comme DP, c'est sûr, c'est un aller vers. Fait que quand je parle... Tu vois, ça, j'essaie de le prendre de toi, puis tu viens de me le remémorer, justement, que moi, je suis toujours en éviter d'eux, éviter d'eux, éviter d'eux, éviter d'eux. Puis il faut que je fasse attention, puis j'essaie de réaliser qu'il y en a, que tu peux juste driver en aller vers, voici ce qui va arriver, voici ça, voici ça.
Mais le best, c'est quand tu fais une présentation, mettons, en groupe, c'est que tu dis toujours les deux.
Les deux choses, ouais.
C'est un peu comme en marketing, tu veux gagner de la masse en évitant de manger du poulet brocoli. Tu sais, c'est... Tu parles à tout le monde, en fait. Tu t'assures de parler à tout le monde, en fait. Fait que... Petite leçon. Fait que c'est ça, les cinq points.
Cool, man.
Dans le fond, si on fait un recap, l'absence de confiance, la peur d'avoir des conflits, le lack of commitment, donc de pas assez être all-in, si on veut, de ne pas être redevable et de ne pas prendre attention aux résultats, qu'est-ce qui a vraiment de l'impact, puis c'est quoi qui fait vraiment la différence.
Si on prend notre conversation, puis tu aurais juste un ou deux conseils à donner, ce serait quoi, en résumé de notre conversation?
Ben, je pense que c'est vraiment la base, tu sais, de s'intéresser au monde, de savoir c'est quoi leur objectif personnel, leur objectif professionnel, où est-ce qu'ils veulent s'en aller, comment tu peux les aider. Puis, tu sais, déjà là, si tu fais ça, le reste va suivre, tu sais, puis de je pense que ce qui est plus important, c'est de donner l'opportunité aux gens de soit de discuter d'un point ou de t'sais, de leur donner des opportunités plus que de dire. Fait qu'exemple que toi, t'es en... On va prendre Eric qui est en conflit avec Jacques. Ben, tu sais, juste leur mettre la table, de dire, regarde, il y a un problème, là, on va le régler. Parlez-vous, puis après ça, tu sais, comme tu disais, réglez ça ensemble, après ça, je vais être là. Mais parce que sinon, si des fois, c'est des gens qui n'aiment pas du tout le conflit, ces deux personnes-là, fait qu'ils veulent pas en parler. Ils sont comme, ah non, c'est correct, chacun de leur bord, mais ça nuit à la mission ultime puis l'équipe. T'sais. Fait que, en gros, c'est pas mal ça.
Je trouve ça intéressant. Je prends ton point, puis honnêtement, je dirais la même chose. La chose la plus importante, c'est s'intéresser aux gens, puis écouter qu'est-ce qu'ils veulent, puis leur montrer comment on va faire pour les aider à se rendre là, mais. Pour ajouter à ce que tu as dit, je pense juste de mettre beaucoup de clarité dans les KPI, les indicateurs de performance qui vont faire en sorte qu'ils vont atteindre ces objectifs-là dont ils t'ont parlé. Tu sais. C'est vraiment important. Là. Tu veux pas juste qu'ils essayent de trouver eux-mêmes comment ils vont se rendre là. Tu sais, vraiment que tu les pointes dans la bonne direction. Puis de pas oublier que chacun des changements que vous faites dans l'entreprise, ça va apporter de la friction. Parce que les gens dans votre entreprise sont habitués de travailler d'une certaine façon puis de faire des choses d'une certaine façon. Donc quand vous venez lâcher une bombe là-dedans puis faire un gros changement, c'est vraiment important d'expliquer comment ça va les aider, eux, ce changement-là. Vraiment important.
Puis de les épauler à travers ça, tu sais. Parce que ça soit... exemple, tu mets quelqu'un dans une nouvelle position puis tu dis c'est correct, tout est bon, puis « Ah, ça va! » Puis tu laisses aller, ça se peut que ça foire, tu sais. Fait que... Ouais, bref.
Fait que cool. Là-dessus, on se laisse, guys. On n'oublie pas Apple Podcast. S'il vous plaît, on laisse 5 étoiles dans les commentaires écrits. S'il vous plaît. Si vous aimez le podcast, c'est la seule chose que vous demande. Si vous écoutez sur Spotify, vous ne pouvez pas me laisser de 5 étoiles dans les commentaires écrits. On s'abonne sur Spotify et on partage sur Instagram, bien sûr. Merci à ceux qui le font. Je vous aime. Jake. Jacob Amiel, Quantum Training sur Instagram. Ciao, guys.